La Société vaudoise des sciences naturelles fête cette année son 200e anniversaire. C'est l'occasion pour CQFD de se pencher sur ces sociétés, appelées souvent sociétés savantes, hein, qui existent partout, mais qui restent encore méconnues. Pourtant, elles font beaucoup pour la diffusion du savoir scientifique à un public le plus large possible, Sylvio Dolzan.
Oui, qu'elle s'appelle Société vaudoise ou neuchâteloise ou fribourgeoise des sciences naturelles, ou alors Société de physique et d'histoire naturelle, comme à Genève, la Mauricienne, ça c'est en Valais, ou encore Société jurassienne d'émulation, elles ont toutes, dans le fond, le même but, assurer le lien entre le monde académique et la population, encourager la recherche et diffuser les connaissances scientifiques dans le public. Le cas échéant, s'il y en a une, elles sont très proches de leur université cantonale et s'intéressent principalement aux sciences évidemment naturelles, à biologie, chimie, astronomie, etc., etc. À l'exception quand même de la Société jurassienne d'émulation qui propose également un volet littéraire. Forte en moyenne de quelques centaines de membres actifs, toutes ces sociétés sont affiliées à l'Académie suisse des sciences naturelles, encore une entité aussi active que méconnue. Et enfin, elles sont toutes nées au 19e siècle à l'instigation de savants, de naturalistes. Et c'est peut-être de là que leur vient cette image assez répandue dans le public. J'ai fait le test autour de moi, celle un peu de caricature d'Honoré Daumier, vous savez, de cercle de vieux instituteurs qui partagent des excursions botaniques et s'extasient durant des heures devant la forme d'une feuille ou d'un pétale. Mais non, ces sociétés savantes, c'est pas du tout ça.
Et nous allons en avoir la preuve grâce à nos trois invités, à commencer par le garçon. Il y a deux filles et un garçon. Je commence, une fois n'est pas coutume, par le garçon. Il s'appelle Vincent Sonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, vous êtes président de la Société vaudoise des sciences naturelles. Je vous accueille en premier puisque vous fêtez vos 200 ans cette année. Donc vous avez les honneurs, voilà, grâce à cet anniversaire. Important anniversaire, nous prendrons votre exemple pour expliquer ce que sont ces sociétés. À vos côtés, Isaline Stahl, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice chargée de projets au Musée d'Histoire des sciences de Genève. Vous êtes également membre du comité de la Société genevoise de physique et d'histoire naturelle. Avec vous, on va retracer un peu l'histoire de ces sociétés savantes. Et enfin, Emmanuel Giacometti, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous dirigez l'Espace des Inventions à Lausanne, un lieu qui propose des expositions et des activités scientifiques. Ou plus petit, vous faites également partie du comité central de l'Académie des sciences naturelles. Vous nous aiderez à faire mieux connaissance justement avec cette institution. Alors Vincent Sonnet, donnez-nous une petite idée du programme de votre société à l'intention du grand public.
Alors, on essaye chaque année de proposer un programme qui soit varié, qui couvre justement les différents domaines des sciences naturelles, et puis de le faire aussi sous un format qui réponde aux intérêts de chacun. Donc, c'est à la fois des excursions, des conférences scientifiques, un format un petit peu plus traditionnel, des cafés scientifiques, des films débats, des visites d'instituts, etc. Et puis, c'est vrai que cette année, pour cet anniversaire, les 200 ans de la Société vaudoise des sciences naturelles, on a essayé de redoubler d'inventivité pour se montrer attractif, avec un programme festif. Et donc là, il y a quelques nouveautés. Alors si je prends pour exemple les prochains rendez-vous, c'est ce samedi où on va se rendre sur le domaine du château Rochefort à Alamans pour découvrir un petit peu finalement derrière le vin, quels sont les éléments de science qui permettent, après le travail d'un terroir, d'obtenir un produit tout à fait savoureux. Donc on sera guidé dans cette activité-là par le vigneron du domaine et puis par trois scientifiques de l'agroscope de Changin qui sont spécialisés dans la pédologie, dans l'analyse sensorielle, etc. Et puis ça se terminera bien sûr par une dégustation.
Oui, évidemment.
Donc ça c'est un exemple. Et puis à la fin du mois, il y a aussi une excursion pour redécouvrir une partie du patrimoine erratique dont est propriétaire la Société vaudoise des sciences naturelles. Donc là, c'est une excursion qui se déroulera à B, guidée par...
Le bloc monstre et la pierre abbesse.
Exactement, voilà. Donc, en compagnie de géologues qui vont nous apprendre un petit peu d'où viennent ces blocs, de quoi ils sont constitués. Et puis, on verra aussi qu'à leur surface, en fait, il y a d'autres éléments qui ont trait aux sciences naturelles qui sont intéressants, notamment des mousses et des lichens.
Et puis vous attribuez également un prix annuel pour la relève, de quoi s'agit-il ?
Alors voilà, chaque année donc on a un prix d'encouragement qui est destiné alors non pas à des chercheurs qui sont déjà à un niveau universitaire, mais là qui est principalement destiné à des travaux de maturité gymnasiale en fait. Donc c'est des chercheurs on va dire amateurs dans le but d'essayer de vraiment de les engager à poursuivre leur démarche scientifique.
Vincent Sonnet, vous êtes biologiste, la présidente de la Mauricienne valaisanne, elle est hydro biologiste. Est-ce que la plupart des membres des sociétés savantes sont des scientifiques, en fait ?
Alors c'est vrai que c'est majoritairement le cas. Maintenant, c'est une tendance qui est en train de changer au niveau de la Société vaudoise des sciences naturelles. On voit qu'on a de plus en plus de membres qui sont aussi issus d'un autre domaine que celui des sciences. Et c'est réjouissant parce que notre but, c'est justement d'essayer de marier un petit peu ces deux mondes.
Ouais. Juste avant l'émission, Isaline Stahl m'avait dit que le cas de Genevois était un peu particulier quand même.
La Société de physique et d'histoire naturelle est une belle et vieille dame, hein, puisqu'elle date du 18e, elle datait de 1791.
Oui, c'est la plus ancienne.
Et au départ, c'est vraiment une société de savants, et ça reste un peu dans ses statuts, c'est en train de se modifier, mais on y entre encore par cooptation de deux membres, et en général, il faut donner la liste de ses publications. Enfin voilà, ça n'empêche pas du tout de participer à ses activités sans être membre actif, mais c'est vraiment une société de savants et de scientifiques.
Vincent Sonnet, je l'évoquais tout à l'heure, les liens avec les universités, en l'occurrence il y a l'université dans le canton de Vaud, quel lien vous avez avec l'université de Lausanne ?
Alors c'est clair que l'université de Lausanne, c'est le vivier scientifique pour une société comme la SVSN. Et puis si on regarde sur les 200 ans d'histoire, il y a des liens qui sont tissés de manière très, très étroite.
Vous êtes, entre guillemets, basé, l'adresse internet notamment, c'est atunil.ch.
Voilà, alors on bénéficie encore de quelques facilités.
À Neuchâtel aussi d'ailleurs, oui.
Exactement.
Donc la société vaudoise est née en 1819, la société genevoise dont vous faites partie, Isaline Stahl, vous venez de le dire, est encore plus ancienne, hein, 1791. Les autres sont apparues au milieu du 19e siècle. J'imagine que ce n'est pas une coïncidence qu'elles soient toutes apparues dans cette période-là.
Non, après le siècle des Lumières, on essaye, je dirais un peu méchamment, mais en caricature en tout cas, tout et n'importe quoi en science. On sent qu'à partir de la fin de ce siècle et le 19e, on a besoin de structurer un peu le savoir. Et la plupart des sociétés, elles essayent de rassembler les scientifiques pour couvrir des champs qui se spécialisent de plus en plus, savoir aussi ce qui se passe à l'étranger. C'était un des buts en tout cas de la Société de physique et d'histoire naturelle à Genève, de savoir ce que font les Allemands, les Italiens, les Anglais pendant longtemps, quand c'est bloqué par des raisons politiques. Et puis, effectivement, le développement de ces sciences qui deviennent de plus en plus complexes, et il faut de plus en plus de spécialistes pour les comprendre.
Ces premières sociétés savantes, j'imagine que elles réunissaient ces savants un peu entre eux, ils étaient entre eux, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup plus une ouverture finalement qui s'est développée.
Alors tout à fait, au départ même, la Société de physique et d'histoire naturelle, elle s'était limitée à 20 membres. Donc ça restait vraiment quelque chose de très entre soi, on va dire, même si c'était des savants de domaines variés assez, et de pointe. Et puis maintenant, le propos, c'est de vulgariser la science auprès d'un public le plus large possible, de promouvoir différents champs en complémentarité avec l'université, notamment, comme m'a dit mon collègue, en donnant des bourses ou en donnant même des prix et des médailles. Enfin voilà, il y a des promotions ciblées d'activités scientifiques et des publications de congrès, ce genre de choses.
Cette vulgarisation, elle est apparue à partir de quel moment est-ce qu'on arrive à identifier ça dans l'histoire de ces sociétés savantes ?
Je ne sais pas, c'est un peu comme si vous posiez la question de savoir à partir de quand on a été curieux.
Oui.
Il me semble que c'est difficile d'en donner une date. Mm-hmm. Je pense que c'est dans l'histoire de l'humain d'être curieux. Ouais. La structuration de la curiosité peut-être arrive à différents moments, mais c'est aussi le 19e, l'apparition des musées. Donc c'est le moment où on essaie de mettre à disposition des objets et des savoirs pour un public de plus en plus large. Le musée académique de Genève, au départ, c'était un jour par semaine où le public avait le droit de venir, le jeudi. Et puis après, moyennant finance. Hein.
Oui.
Et après, ça s'ouvre et nos musées sont à peu près ouverts tout le temps maintenant.
Alors Isabelle Giacometti, on l'a dit, toutes ces sociétés cantonales sont affiliées à ce qu'on appelle l'Académie suisse des sciences naturelles, dont vous faites partie du comité central. Rappelez-nous ce que c'est cette académie, institutionnellement, c'est quoi ?
Alors, l'Académie suisse des sciences naturelles fait partie du groupement des académies suisses, il y en a quatre, et au fond, elle a plusieurs missions. C'est une sorte d'association fêtière qui regroupe toutes les sociétés savantes, enfin pas toutes, mais disons une grande partie de ces sociétés savantes sous son égide, qui leur permet de fonctionner, qui les soutient dans leurs actions vis-à-vis du grand public et des choses qu'elles veulent promouvoir. C'est aussi un lieu où les scientifiques de sciences naturelles se retrouvent, peuvent mettre ensemble leurs connaissances et une des missions importantes de la SCNAT, comme on l'appelle, l'Académie suisse des sciences naturelles, c'est aussi d'aller vers les autorités, vers les politiques, vers les décideurs pour transmettre des messages sur l'état de la recherche, l'état des connaissances, pour permettre à ces politiques de prendre des décisions aussi avisées que possible.
La Confédération donne parfois des mandats à SCNAT.
Oui. Absolument, oui. En l'occurrence, pour donner un exemple qui nous concerne, elle a donné à l'Académie suisse des sciences naturelles le mandat elle lui a donné un certain montant d'argent à distribuer à des institutions qui font de la promotion pour ce qu'on appelle les disciplines MINT, c'est-à-dire mathématiques, informatiques, sciences naturelles et sciences techniques, qui sont des disciplines dont on sait qu'on a un peu de peine parfois à recruter des gens pour suivre ces filières. Et donc, cette académie a reçu le mandat de soutenir différentes actions en Suisse pour la promotion de ces disciplines, pour donner un exemple.
Mmh. Est-ce que, on a parlé de des sociétés romandes, il y en a partout, dans tous les cantons?
Alors oui, il y en a dans tous les cantons. Oui, oui. Après, la Suisse est une confédération. Chaque canton est organisé à sa manière. Donc, chaque canton a ses petites spécificités, ses organisations particulières. Mais oui, c'est actif dans tous les cantons, tout à fait.
Alors, parmi la population à laquelle on veut faire connaître un peu mieux la science, il y a les jeunes, notamment les très jeunes. Alors, la Muricienne en Valais propose notamment des camps, des camps d'une semaine, etc. pour les petits. Et vous, Emmanuel Giacometti, à l'Espace des Inventions, j'ai dit Isabelle tout à l'heure, excusez-moi, Emmanuel Giacometti à l'Espace des Inventions, vous proposez ateliers, expositions interactives. C'est un public particulier qu'il faut toucher en priorité. On va peut-être poser la question aux autres.
Alors, vous imaginez bien que j'en suis convaincue. En effet, c'est un public particulier. Et qu'il faut toucher en priorité pour une raison assez simple, c'est qu'on observe depuis très longtemps, et on ne sait pas très bien pourquoi, et on a de la peine à faire face à ça, qu'assez tôt dans la scolarité, beaucoup d'enfants, tout à coup, se découvrent une espèce de dégoût des mathématiques et mettent les sciences avec dans le même panier.
Oui. Hein,
j'aime pas les maths,
suis, madame,
j'ai jamais rien
suis.
Compris
oui,
en physique et tout ça.
Et donc on rejette tout, tout ce
et
qui
on
est
rejette
scientifique.
Tout, donc ouais. Évidemment on rejette aussi toutes les filières et toutes les connaissances qui vont avec.
C'est
donc
ça.
Il faut s'adresser à ces publics avant justement l'apparition de ce « Ah !» Je veux plus qu'on parle de maths.
J'adore. Comment vous le faites, le
Ah, je peux le faire qu'une fois. Après ça, voilà, mais faites-le puisque vous savez ce que
oui,
c'est.
Moi, je suis à peu près
voilà.
Comme vous, oui.
Et voilà. Donc, c'est très, très, très important de montrer aux enfants que la science, c'est intéressant, c'est curieux. Peut-être il y a des choses compliquées, mais c'est pas ça le problème. Il faut s'y intéresser, de développer cette curiosité, puis d'empêcher cette espèce de barrière qui se construit contre laquelle on a peine à faire quelque chose une fois qu'elle est là.
À part ça, vous le faites hyper bien à l'Espace des Inventions. On en parle très régulièrement dans CQFD. Évidemment, on est très heureux que des lieux comme ça existent en Suisse romande pour encourager à mon époque, c'est-à-dire il y a fort longtemps, j'aurais peut-être pu bénéficier davantage de ce genre de lieu pour pouvoir m'ouvrir aux sciences. Voilà,
alors,
ça n'a pas été le cas.
Merci pour le compliment. Et c'est vrai qu'on entend souvent des adultes qui nous disent « Ah, j'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais enfant ». Après, il faut être être raisonnable et savoir qu'on n'aurait peut-être pas changé forcément la face de leurs orientations professionnelles juste parce qu'ils seraient venus à l'Espace des Inventions, mais je pense que ce genre d'action participe à essayer de battre ces barrières un peu invisibles et tenaces.
Et je suis témoin que les parents apprécient aussi, puisque j'y ai amené mon fils souvent, quand il était petit, justement, et j'avais autant de plaisir que lui, je crois. Et à part ça, vous parlez de rejet, mais Vincent Sonnet, il y a aussi quand même une fascination. Par exemple, vous, quand vous organisez des visites de labo, etc., est-ce que les gens sont quand même les yeux écarquillés quand ils voient ce qui se passe dans les labos?
Oui, en général, il y a cet émerveillement et je pense que c'est simplement lié au fait que la science, on y a tous à faire au quotidien, en fait, par une tas de manières différentes, mais que ce soit à travers les technologies, à travers des sujets de société qui soulèvent des questions, des craintes, etc. Donc, c'est des choses auxquelles chacun est confronté pratiquement tous les jours.
Isaline Stahl, vous travaillez au musée d'histoire des sciences de Genève. Qu'est-ce que vous avez... Que vient chercher le public, d'après vous? Chez vous, dans ce musée.
Alors, je pense qu'il y a deux axes. Il y a toujours une tension entre les deux. Il y a des gens qui viennent chercher de la science et ils en trouvent. Et il y a des gens qui viennent chercher de l'histoire. C'est un peu les deux composantes qui sont même dans le titre du musée. Et on leur propose, bien sûr, des instruments anciens et des choses comme ça. Mais on leur propose aussi la Nuit de la Science, tous les deux ans, où les laboratoires sortent de leurs murs et viennent montrer au public comment ça fonctionne. Et je rejoins tout à fait la position d'Emmanuel Giacometti sur l'importance de parler de science aux enfants.
Il faut vous y arrivez facilement, parce que c'est vrai qu'on se dit musée, une histoire, une histoire.
Alors, les enfants, c'est formidable.
Oui.
Ils sont curieux et ils ont envie. Le plus beau compliment, je crois, qu'on ait jamais reçu au musée, c'est quand un enfant marchait dans le parc et traînait son parent en disant « Mais viens, je suis déjà venu, il se passe des trucs sympas ici, viens avec moi. »
Ah oui, c'est génial.
Alors, quand, voilà. Mais il y a un autre volet. Pas tout le monde va devenir scientifique, mais tout le monde va devenir citoyen. Et on a un devoir dans nos différentes institutions, et vous ici aussi, pour éclairer et préparer les esprits pour que les gens puissent choisir librement leur position par rapport à des sujets de société qu'on évoquait avant. Et bah, si on peut un tout petit peu semer des graines dans nos institutions ou dans les différentes sociétés, bah, on aura fait quelque chose.
Vincent Sonnet, comment réagissent les scientifiques lorsque vous les sollicitez? Ils sont ouverts à la transmission? Ils aiment, dans le fond, raconter, vulgariser?
Oui, c'est rare d'essuyer des refus. Ça arrive que quand c'est des personnes qui sont déjà trop sollicitées. Mais c'est vrai qu'en général, c'est des personnes qui sont ravies de pouvoir saisir ce genre d'opportunité. Simplement, je pense, parce que pour eux, c'est aussi l'occasion de se confronter à un public et puis de prendre un petit peu de recul. Hein. Comme tout le monde, quand on est un peu la tête dans le guidon, des fois, on a du mal à se poser aussi des questions un petit peu plus globales. Et je pense que là, c'est l'occasion d'être forcé à le faire. Donc, en général, les scientifiques sont ravis de faire de la vulgarisation. Oui.
Emmanuel Giacometti.
Si je peux me permettre une petite anecdote, nous avions invité il y a maintenant bien quelques années un professeur en physique quantique pour venir parler de physique quantique aux enfants, enfin à un groupe, à un public. Il y avait beaucoup d'enfants, des adultes. Et ce professeur de l'université de Singapour m'avait dit, il avait vu tous ces gens, tous ces enfants assis comme ça, qui attendaient qu'ils commencent. Et il m'a dit, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Voilà.
Voilà, public
donc
exigeant.
C'est un exercice aussi oui, pour clair. Le scientifique de oui. se trouver face à un public différent de ses collègues.
Vincent Sonnet, là, Isabelle, Isabelle, je dis Isabelle, Emmanuel, pourquoi je vais vous appeler ça?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas non plus. Emmanuel Giacometti vient de parler du mélange du public. Si on prend l'exemple de l'excursion dans quelques jours à B pour les blocs erratiques, qui va venir?
Alors, je pourrais répondre qu'une fois que le rendez-vous sera arrivé, mais c'est en général un public qui est assez varié. Alors, il y a toujours, bien sûr, quelques personnes du domaine. Après, là, c'est aussi des excursions qui sont adaptées à un public familial, en fait. Il y a en général aussi quelques familles avec des enfants. C'est vraiment assez hétérogène. Et c'est aussi la difficulté après de réussir à avoir un discours qui convient à tout le monde.
On comprend grâce à vos trois interventions aujourd'hui dans CQFD, dans le fond, l'intérêt de ces sociétés savantes, ces sociétés de sciences naturelles, pour les résumer ainsi. Comment expliquer du coup cet apparent manque de reconnaissance dont souffrent ces sociétés auprès du grand public? Emmanuel Giacometti.
C'est une question difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas très bien ce que sont ces sociétés savantes et ce qu'elles font, et qui sont peut-être impressionnés, qui ont peut-être la sensation fausse que ça s'adresse à des gens qui ont déjà des connaissances, et vraisemblablement que ça peut effrayer un certain nombre de personnes. Mais ce sont des choses qui évoluent aussi. On évite aujourd'hui de les appeler encore sociétés savantes, justement pour sortir du cliché que c'est réservé à ceux qui savent. Et je pense que ça va aller de plus en plus vers une ouverture et puis vers les gens qui n'y connaissent rien et qui s'y sentiront tout à fait accueillis, qui s'y sentent déjà accueillis s'ils osent le faire, franchir le pas.
Isaline Stahl, vous vouliez compléter?
Pas forcément.
Non, vous étiez contente de ce que nous disait Emmanuel Giacometti. Les sociétés de sciences naturelles, dont celle du canton de Vaud, qui fête donc cette année ses 200 ans. Bon anniversaire, Vincent Sonnet. Et
merci de l'invitation.
À toute l'équipe. Et je rappelle que vous êtes président de la Société vaudoise des sciences naturelles. Merci également à Emmanuel Giacometti, directrice de l'espace des inventions, membre
Emmanuel
du...
Giacometti.
Oui, c'est ça.
Oui,
il fallait préciser. Membre du comité central de l'Académie des sciences naturelles. Et Isaline Stahl, médiatrice au Musée d'Histoire des Sciences de Genève, tous les trois invités par Silvio Dolzan.